Alors, le texte proposé par l'association Portes Ouvertes est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Donc, c'est une lettre écrite par un certain Jean de Patmos, hein, dans une période de persécution au 1er siècle. Là, vous avez une petite peinture de Jean qui voit une vision. Il a une vision, il reçoit une vision et il la met par écrit. Donc, il y a un style particulier, il y a plein d'images, on ne comprend pas forcément tout. Mais on peut déchiffrer quelques trucs. On voit d'abord qu'il y a plusieurs chiffres. Vous avez tous entendu parler de certains chiffres. Il y a le chiffre 7 qui est très présent. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 visions, 7 coupes de la colère, 7 paroles sur Babylone. Et il y a aussi 7 églises. Ça, vous le savez. Peut-être pas tous. Le début de l'Apocalypse est adressé à 7 églises en particulier. Et en fait, tout l'Apocalypse est une lettre envoyé à ces sept églises. Et c'est toute la lettre qui circule dans toutes les églises. Alors, pour rappeler un petit peu, il y a l'église d'Éphèse qui lutte contre des faux prophètes, il y a Smyrne qui vit la détresse de l'emprisonnement, Pergame qui est attachée au nom du Seigneur, mais qui subit des faux enseignements, Thyatire qui subit l'influence de Jézabel, Sardes, qui est réputée vivante, mais en fait qui est morte, Philadelphie, l'église dont on va parler aujourd'hui, et finalement Laodicée, qui est tiède. Voilà pour remettre dans le contexte. Et l'église de Philadelphie, dont on va parler aujourd'hui, elle a une caractéristique principale, c'est qu'elle est fidèle dans l'épreuve. Et on va le voir ce matin. Alors je vous invite à lire, donc chapitre 3, versets 7 à 13. Alors je lis dans la Nouvelle Bible Seconde. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit : Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je te donnerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, on le voit dans le texte, l'église de Philadelphie a deux caractéristiques majeures. Elle est faible, mais puissante. On le voit au verset 8, elle a peu de puissance. On peut imaginer une petite communauté, une petite église se réunissant dans un petit local. On nous dit qu'elle est persécutée par les Juifs. C'est aussi une période où la persécution romaine est intense. Et ce thème de peu de puissance, on le retrouve souvent dans le Nouveau Testament. Jésus fréquente les plus petits, les peu puissants. Les femmes de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts. Et on peut se poser la question, aujourd'hui, s'il vient, avec qui il traînerait? L'auteur Jacques Ellul affirme que la puissance, selon les hommes, c'est vraiment l'ennemi absolu de Dieu. Et il fait remarquer que ceux qui ont une puissance s'écartent toujours un peu de Dieu. Et aujourd'hui, on peut penser à plusieurs choses qui peuvent nous écarter de Dieu. Plusieurs puissances, l'argent, la technique, l'érotisme, la science. Dans certains pays, les chrétiens sont ces gens qui sont peu puissants, cette église de Philadelphie. Par exemple, en Inde, la discrimination envers les chrétiens est quotidienne. Et depuis juillet 2015, dans 54 villages de l'État de Chhattisgarh, les chrétiens se voient refuser tout permis de construire, pour des maisons individuelles comme pour d'autres bâtiments. Ils ne peuvent pas bénéficier d'aide alimentaire. Ils n'ont pas le droit de puiser l'eau dans des puits publics. Et ils sont exclus d'emplois agricoles. Ils sont réservés en priorité aux hindous, ces emplois. Et si ces chrétiens convertis revenaient à l'hindouisme, en fait, les discriminations cesseraient. Et ça, c'est Porte Ouverte qui nous donne cette info. Le parti au pouvoir organise des cérémonies de reconversion des chrétiens vers l'hindouisme, appelées Ghar Wapsi, retour au foyer. Et ils offrent d'importantes récompenses aux chrétiens convertis afin qu'ils reviennent à l'hindouisme. Une église faible, l'église en Inde, où la discrimination est forte. Mais, comme on le voit dans le texte, l'église de Philadelphie est attachée à la parole. Elle est fidèle aux Écritures, à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Elle a confiance en ce texte qui est le témoin de la vie et des actes de Jésus. C'est la parole qui nous explique comment Dieu s'est montré à nous à travers Jésus. Et c'est toujours intéressant de voir comment, dans d'autres pays où les chrétiens sont persécutés, ou même les conditions sont difficiles, cet attachement à l'Écriture, à la Bible. Quand j'étais en République démocratique du Congo, dans le petit village, il y a plein de gens qui me demandaient « Est-ce que tu peux me donner une Bible ?» Nous, on en a plein, dans plein d'éditions différentes. On a peut-être perdu un peu le côté précieux de cette Bible. D'autant plus que dans la Bible, Jésus affirme que c'est lui qui a les paroles de la vie. Et aucune autre personne ou aucune autre institution ou puissance ne l'a, autorité ne l'a. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et Pierre le dit, hein, à qui rayons-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. Mais Jésus, avec cette église de Philadelphie, donne une récompense à sa fidélité. Et on peut passer à la deuxième slide. Le premier accomplissement pour eux, c'est d'avoir gardé le nom de Christ, de ne pas avoir renié son nom. Malgré leur faiblesse, ils ont continué à rendre un témoignage vrai et puissant, malgré leur faiblesse. Parce que cette petite église, on sent qu'elle a fait du remous, vu qu'elle a attiré la réaction des Juifs. Elle a exercé une influence, on ne sait pas trop comment, et ce n'est pas par une action incroyable, c'est juste par sa présence. Parce que celui qui agit vraiment, c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui amène à lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 9 quand il dit « Je te donne ». C'est Dieu qui donne les nouveaux convertis à l'église. Les petites églises attirent du monde, car Dieu donne des gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est Dieu qui fait croître, c'est Jésus qui détient les clés, comme on l'a vu dans le texte. Par exemple, en Algérie, Malika, une femme de 37 ans, qui est mère de 8 enfants, a été répudiée par son mari et a perdu tout droit sur ses enfants. Mais elle a tenu bon et suscité des interrogations, voire de l'admiration. Plusieurs de ses enfants sont devenus chrétiens à leur tour. Et depuis février 2016, elle peut à nouveau les voir. Et elle dit « Les conversions sont souvent contagieuses, ce qui explique en partie l'expansion actuelle du christianisme en Algérie. C'est Dieu qui fait croître. » Alors on voit, l'église de Philadelphie est est persécutée par ceux qui se disent vrais juifs, ceux qui pensent avoir la vérité. Alors que le vrai Messie est arrivé, Jésus. Et on a des exemples aujourd'hui de personnes qui disent être dans le vrai, dans la vérité. Les chrétiens de l'ombre, comme on a vu dans la vidéo, qui quittent leur ancienne religion, ont souvent ce reproche. Hein, vous quittez la vérité, qu'est-ce que vous faites ? Et les persécuteurs pensent être dans le vrai. Eh bien, même ces personnes, Dieu est capable de leur faire fléchir le genou. Je me souviens des prières de Muriel qui prie pour les persécuteurs. C'est toujours Dieu qui vainc la résistance des persécuteurs, même les plus redoutables, même ceux de la synagogue de Satan. Alors les chrétiens de Philadelphie ont tenu bon. Et on a l'exemple aussi d'Achmet. Beaucoup de témoignages ce matin pour vous encourager. C'est un chrétien d'une quarantaine d'années, marié et père de 3 filles adolescentes, et il raconte ses épreuves après sa conversion. Il dit « Mes parents m'ont renié et nous ont jeté à la porte. Mon frère a tenté de démolir la maison où nous avions emménagé en la percutant avec un camion. Des musulmans m'ont menacé et m'ont frappé en me disant que si je ne renonçais pas à la foi chrétienne, je le regretterais amèrement. » Il poursuit. « À l'école, mes filles étaient harcelées. On leur disait qu'elles étaient les filles d'un traître. Plusieurs enseignants leur donnaient des mauvaises notes, même si elles avaient bien travaillé. Certains voisins médisaient de nous, disant que nous avions adopté une religion étrangère juste pour de l'argent. » Et à ça s'est ajoutée aussi la pression des autorités. Et Ahmed n'a plus eu d'autre choix que de se cacher, en fait. Il le dit. « Nous avons alors quitté la maison en toute hâte. Fugitifs et démunis, nous avons pris contact avec Portes Ouvertes et on nous a aussitôt trouvé une place. Je ne sais pas comment nous aurions supporté tout cela sans la certitude que nous souffrions pour Christ. » Première récompense, Dieu donne des gens à son Église. Deuxième récompense, il donne une protection. Il est dit dans le texte « Je te garderai de l'heure de l'épreuve ». Le Christ montre sa fidélité envers ceux qui ont été fidèles à lui, qui ont été des témoins fidèles de sa parole. Et on a cette promesse d'être gardé du mal par celui qui a vaincu le mal. Et ceux qui endurent la persécution doivent savoir que le mal est déjà vaincu. Quant à moi, et on a la protection. Comme il est dit dans Matthieu 28, 20, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parce que la victoire doit être célébrée. Comme on l'a dit, ce n'est pas un temps de tristesse, même si c'est un sujet grave, ça doit être un temps de célébration, parce que Jésus a vaincu la mort. Les pouvoirs se succèdent, les élections se succèdent, la souffrance, l'injustice, l'oppression peut nous sembler trop grande pour nous, mais rien ne peut nous enlever cette certitude. Nous sommes du côté du vainqueur. Troisième récompense, on peut saisir la promesse que Jésus viendra bientôt. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et dans le texte, il dit « Je viens bientôt ». Est-ce qu'on est dans cette attitude d'attente qui transforme nos priorités, qui change nos priorités? Je pense que ces chrétiens persécutés nous donnent aussi cet exemple. Ils ont des priorités différentes par rapport à nous. Jésus nous demande de tenir ferme car il revient bientôt. Et il faut rester attaché, en persévérant à ce que nous avons reçu, la couronne. Il y a l'image de la couronne dans le texte. Et un peu plus haut, dans le chapitre 2, il est question de la couronne de la vie. Cette couronne qu'on a reçue, c'est la vie éternelle. Il faut la garder précieusement. Et c'est grâce à Christ qu'on l'a reçu. Il nous a ouvert une porte. Et il y a toute cette image de la porte dans le texte. On peut passer à la suite, voilà. Avec cette expression, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est un peu un thème qui encadre tout le texte. C'est Jésus qui détient la clé de David, qui ouvre cette porte, que personne ne peut fermer. Il a la clé. Il a l'autorité, c'est lui qui décide qui entre, qui sort. Il est dit au tout début du texte qu'il est saint, qu'il est vrai. On peut avoir confiance en Jésus. C'est une porte qui mène vers le salut, la vie éternelle. Et dans ce salut, dans cette vie éternelle, il y a un peu un bouleversement qui s'opère. Les faibles deviennent forts. La faible petite église de Philadelphie devient une colonne. On le voit au verset 12. Une colonne, c'est quelque chose de massif, qui dure, qui est permanent. D'ailleurs, Paul, en Galates 2, verset 9, il décrit Jacques, Céphas et Jean comme des colonnes de l'église. Et là, Jean, dans l'Apocalypse, décrit cette faible église de Philadelphie comme une colonne dans le temple de Dieu. Les peu puissants sont devenus forts. Les chrétiens persécutés sont des colonnes dans le temple de Dieu. Nous, qui sommes faibles, sommes des colonnes. Et cette clé qui ouvre la porte sur un bel arbre, c'est aussi l'entrée dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est important. Cette récompense est avant tout la présence de Dieu. On a accès à la présence de Dieu et on a un Dieu qui attend qu'une seule chose, c'est de passer du temps avec lui. D'ailleurs, dans une autre des églises, dans Apocalypse 3:20, c'est l'église de Laodicée, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il veut passer ce temps avec nous. Et personne ne peut nous séparer de cette présence de Dieu. Dans le texte, il est dit « Au vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu et il n'en sortira plus. » Super promesse. On a aussi un nouveau statut quand on entre par cette porte. On a le nom, on a un nouveau nom. Et dans le texte, il est mis à 3 reprises. Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, et mon nom nouveau, le nom de Christ. 3 nouveaux noms qui nous donnent une nouvelle identité. Sur notre carte d'identité, il n'y a pas marqué Simon, Jean-Claude, Jacqueline, mais Jésus-Christ. On est une nouvelle créature. Et ça nous fait aussi réfléchir, parce qu'il nous dit que nous sommes dans la Jérusalem nouvelle. Voilà, c'est nous qui formons cette Jérusalem nouvelle. Ça veut dire aussi qu'on a une nouvelle citoyenneté. On appartient à cette Jérusalem céleste. On n'est pas... Il faut se poser la question, est-ce qu'on est français chrétien ou chrétien français ? Alors, quelques mots de conclusion. Avec cet exemple de cette église de Philadelphie faible mais fidèle et qui a obtenu 3 récompenses. Les chrétiens de Philadelphie ont gardé la parole de la persévérance. Ils ont tenu la course, ils ont combattu le bon combat. Et surtout, ils ont été persévérants, et on l'a entendu dans la vidéo, ils ont été persévérants comme Christ a été persévérant, comme Christ a souffert. Christ a été au bout de sa mission pour nous sauver. L'église de Philadelphie a été fidèle jusqu'au bout. L'église en Chine, en Inde, au Pakistan, au Nigeria, en Corée du Nord est fidèle. J'espère qu'ici aussi, on sera fidèle. C'est ma prière. Et persévérant dans l'épreuve, comme le Christ l'a été, comme nos frères et sœurs persécutés le sont. Deuxième point, la conclusion. Si nous traversons des moments de persécution, ou même si tout va bien, nous avons besoin de l'esprit pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste. Au milieu des épreuves, il faut souvent le discernement pour rester attaché à ce qui est vrai, au nom de Christ. Prions pour que les chrétiens persécutés gardent les yeux fixés sur l'objectif. Et nous, de notre côté, si nous ne sommes pas vigilants, on peut être tenté d'être bercé par le cours des choses, nous conformer aux circonstances autour de nous, mettre de l'eau dans notre vin, devenir tiède. C'est l'église de Laodicée qui vient juste après l'église de Philadelphie. Prions pour que nous gardions aussi les yeux fixés sur cet objectif. Amen.